13h à 14h sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Franck Ferrand.
Messieurs les Anglais, tirez les premiers. C'est ce que vient de faire Stephen Clarke, journaliste britannique à l'humour ravageur, dans un livre à la fois drôle et grinçant, « Mille ans de mésentente cordiale » publié chez Neil. Il y épingle nos glorioles et nos gauloiseries, et il réécrit l'histoire de France et plus spécialement l'histoire des relations franco-anglaises avec une mauvaise foi et une lucidité so british. Autrefois, pour désigner l'Angleterre, nous avions une expression de ce côté civilisé de la Manche que les Britanniques s'entêtent à nommé le Channel, nous parlions de la perfide Albion. Pourquoi cette appellation ? Perfide, tout le monde comprend, mais Albion. Si l'on en croit l'étymologie fournie par une ancienne version du Larousse, ce nom s'expliquerait par la blancheur des falaises anglaises. Vous voyez, surtout quand on aborde cette île par bateau, comme on le faisait autrefois. En latin, blanc se dit albus, d'où ce surnom d'Albion, la blanche en quelque sorte, surnom décerné à l'île par les navigateurs de jadis. On se rappelle à ce moment-là la première phrase d'un cours fameux d'André Siegfried sur le brumeux pays d'Angleterre. « Messieurs, l'Angleterre est une île, je vous ai tout dit. » À tous les grands moments de fureur française contre les Anglais, qui correspondent, il faut bien le dire, à autant de raclées pitoyables pour nous autres frogies, cette expression « perfide Albion » est ressorti au lendemain de Crécy et d'Azincourt, au pire moment des guerres de 100 ans et de 7 ans, après Trafalgar et Waterloo, Fashoda et Merzel-Kébir, nos aïeux n'avaient plus à la bouche que ce qualificatif « perfide ». Les Anglais, c'est bien connu, ont tous les défauts. Ils sont rusés, égoïstes, hypocrites, égoïstes, hargneux, surtout égoïstes, je vous l'ai dit, bien à l'abri sur leur île, jusqu'à ce qu'on leur fasse avaler le tunnel sous la Manche. On n'en est pas encore revenu de ce coup-là. Bien au large dans l'océan, un œil sur l'Amérique, l'autre sur le Commonwealth, ils n'auront cessé de nous narguer du haut de leurs archers, de leurs machines à vapeur et de leurs marines insubmersibles, tout fiers de leur Rule Britannia, de leurs livres sterling, de leur Shakespeare et de leur Sherlock Holmes, de leur cricket aux règles incompréhensibles et de leur sandwich au concombre immangeable. Comment voulez-vous faire avec ces gens-là ? Bon, je vous concède que la devise de leur reine est libérée en français, « Dieu est mon droit », qu'ils ont souvent accueilli nos réfugiés à diverses époques, nos réfugiés en tout genre, qu'ils se sont battus à nos côtés en Crimée et lors des deux guerres mondiales, et qu'aux pires heures de 1940, leur premier ministre francophile, Churchill, a proposé de fusionner notre pays mal en point avec le sien encore intact, proposition sans équivalent dans l'histoire et qu'évidemment nous nous sommes empressés de rejeter. Mais tout de même, la vérité, voyez-vous, c'est que l'Angleterre nous agace parce qu'elle vit très bien sans nous et qu'en même temps, elle ressemble à la France. Elle est un vieil État royal, uni et centralisé. Pendant des siècles, on ne risquait rien du côté de l'Allemagne, nous autres Français. L'Allemagne était atomisée en toute une mosaïque de principautés minuscules. On ne risquait rien non plus du côté de l'Italie, morcelée, disons-le, suicidaire. Nos deux seuls adversaires potentiels, en dehors de l'Autriche, dangereuse mais complexe, et de la Russie bien trop lointaine et d'ailleurs fraternelle, nos seuls ennemis désignés étaient l'Espagne et l'Angleterre. Et de fait, l'Espagne nous a donné du fil à retordre, on a tendance à l'oublier. Elle nous a quand même envahis à deux reprises. Elle a bien failli nous mettre sous sa tutelle deux autres fois. Seulement, l'installation d'un prince français sur le trône de Madrid et la retombée de cet empire espagnol inquiétant dans ses querelles intestines et son régionalisme, tout ça nous a détourné des peurs pyrénéennes et nous nous sommes retournés vers l'Angleterre, vers ce royaume un temps conquis par les Normands. Et d'ailleurs, Louis XV puis Napoléon caresseront le rêve d'imiter Guillaume le Conquérant. Ce royaume qui, sous les Plantagenets, aura fini par déborder sur le continent, de Calais jusqu'à Bayonne. Ce royaume dont le souverain, jusqu'en 1802, a été officiellement titré roi d'Angleterre et de France. Il y a tout de même de bonnes raisons de se méfier de gens comme ça, non ? Peut-être pas tant que cela, nous dit l'ouvrage de Mr. Clarke, en se moquant sans pitié de nos paranoïas continentales. Et si, demande-t-il en substance, et si les dommages imputés aux Anglais par les Français étaient en vérité la faute des Français eux-mêmes ? Ah, ça c'est bien des Anglais, toujours rejeter la faute sur les autres.
Nothing you can sing that can't be sung. Nothing you can say, but you can learn how to play the game.
The Fab Four sur Europe 1, les Beatles avec All You Need Is Love. Nous revivons aujourd'hui 1000 ans de rivalité franco-anglaise sur Europe 1.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
Et avec votre invité Franck aujourd'hui sur Europe 1, Stephen Clark, qui est journaliste britannique et francophile, auteur de 1000 ans de mésentente cordiale, l'histoire anglo-française revue par un Rosebif aux éditions du Nil.
Bonjour Stephen Clark. Je disais dans la présentation que vous étiez de mauvaise foi, mais c'est encore pire que ce que je croyais, puisque vous nous dites là pendant l'interruption que quand les Anglais entendent ta la 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 la, ils ne pensent pas du tout à la Marseillaise, non ?
Non, pour nous c'est une chanson des Beatles.
Évidemment.
Donc ça nous appartient maintenant.
Et au cas où vous ne le sauriez pas, vous avez, vous, un hymne britannique, God Save the Queen, qui appartient aux Français, puisque c'était un motet pour Louis XIV au départ.
Il y a des emprunts. Ça, mais ils approuvent juste qu'on ne peut faire aucune confiance aux Anglais.
Exactement. Jérôme nous disait par un message sur Facebook juste avant que ne commence l'émission, je pose une question que je n'aurais pas la possibilité de poser en direct. Est-ce que c'était une vraie réalité populaire ou est-ce qu'il s'agit d'une rivalité de gouvernants? Et à ça, une auditrice qui se trouvait sur le même site, sur le même réseau social, lui répond « À mon avis, il s'agit bien d'une rivalité populaire. J'habite sur la côte sud de l'Angleterre depuis plus de 20 ans et je ne compte plus les pics plus ou moins amusante ou cruelle que j'ai reçue au cours de ces années. Les Anglais sont inexplicablement fiers d'avoir gagné la bataille d'Azincourt. Ils n'ont en général aucune idée de la date ou des raisons de l'affrontement, mais ils m'assènent régulièrement qu'ils ont gagné et que j'ai perdu. » Vous êtes fiers d'Azincourt encore presque 6 siècles après?
Oui, il faut dire qu'on aime bien les défaites qu'on transforme en victoire.
C'est ça.
Il faut dire que cette bataille-là, surtout Shakespeare, il a écrit une pièce
magnifique, Henri V.
Magnifique, oui. Donc, c'est devenu une bataille c'est une des seules batailles d'ailleurs de l'époque médiévale que les Anglais connaissent. On n'est pas très fort en histoire, mais on sait juste qu'on l'a gagnée. Mais dans le livre, moi, j'adore regarder les détails, et c'est une bataille que on devait perdre en fait.
Ah vraiment, oui, à tout point de vue, numériquement, oui, stratégiquement,
tout,
et même politiquement.
Oui, ce qui est approuvé à l'époque, et que ce qu'on croit encore, c'est que Dieu est en fait anglais. Donc c'est lui qui nous a aidés à gagner.
Ces gentilles petites rivalités franco-britanniques, qui d'ailleurs s'expliquent assez mal sur un plan d'histoire profonde, puisqu'il ne faut pas oublier que les deux peuples sont gaéliques, qu'ils ont été imprégnés de culture celte, qu'ils ont l'un comme l'autre souffert du joug romain et de l'installation en Gaule puis en Bretagne, comme on disait à l'époque, de la langue et de la culture romaine. Mais ces deux peuples ont commencé vraiment à se dissocier et à s'entendre mal assez tôt, on est un peu avant l'an 1000, avec le détournement des Vikings, nous dites-vous, des côtes anglaises vers les côtes françaises.
Oui, j'essaie de commencer un peu fort. Donc, dans le livre, j'essaie de prouver que, et je pense que j'ai réussi, bien sûr,
qu'en
fait, les Normands, Guillaume le Conquérant, je dis, c'était pas un Français.
D'ailleurs, ah non, c'est Guillaume un Normand, lui.
Oui, un Normand pur qui en fait...
C'est donc un Viking, disons. Hein.
Oui, et il est mort en se battant contre la roi des Francs. Il est mort en brûlant Mantes-la-Jolie.
Oui, tout à fait. Donc, contre la France.
Oui, c'est ça. Il est mort dans les banlieues parisiennes, quoi. Et bien avant ça, justement, si la Normandie a été envahie par ces Vikings, les hommes du Nord, c'est grâce aux Anglais, parce que jusque-là, ils allaient très librement piller l'Angleterre. Et à partir du moment au Xe siècle où on a monté, nous, une flotte assez forte pour nous défendre, ce qui nous a donné une leçon pour tout ce qui suivait. À partir de ce moment-là, les Normands se sont détournés vers la France. Ils ont installé des espèces de campements de pillage sur la côte française. Ils n'y sont plus.
Et
ils sont restés.
Que Roland
leur donne
la Normandie. Mais oui,
c'est ça.
Alors, on a célébré l'année dernière à ce même micro les 1100 ans de la Normandie, hein, puisque c'était en 911 cette cession d'une partie du territoire donc aux Normands, aux Vikings. Mmh. Alors c'est vrai que ce sont bien des Vikings qui vont 100 ans plus tard en 1066 avec la bataille d'Hastings. Ce sont bien des Vikings qui vont envahir l'Angleterre, mais ils le font avec une culture et une langue française qui va imprégner durablement la langue anglaise, disons-le.
Oui, tout à fait. Mais il faut dire que Guillaume le Conquérant, c'était quelqu'un de très, d'abord physiquement très puissant, mais aussi très malin, parce qu'il a monté toute une alliance de, pas seulement des Normands, il a lancé l'appel, une sorte d'appel d'offres très moderne. Il y a en face ce pays des Saxons très très riche. Allons prendre toute leur richesse. Qui veut me suivre? Alors, ils sont venus de partout en France, même de la Sicile où il y avait des colonies normandes, et ils ont monté une sorte d'armée qui, effectivement, parlait entre eux, une sorte de patois français qu'ils ont importé en Angleterre. Oui.
Ce qui explique qu'un certain nombre des mots du vocabulaire courant de la langue anglaise soient encore très imprégnés de français. Il y avait là, avec ce royaume anglo-normand, la possibilité de créer presque une entente, une amitié, pourquoi pas une fusion. Vous allez voir que la fusion, on en est loin, haut, très 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 loin.
Franck Ferrand sur Europe 1.
Monty Python's Flying Circus Theme, j'y ai mis tout mon accent anglais, générique de la série télé britannique des Monty Python.
Eh oui, alors les Monty Python, ils sont notamment à la poursuite du Graal, et nous allons parler un peu de ces guerres médiévales et de ce très long conflit, de cet interminable conflit à coups de théâtre et à rebondissement qu'a été la guerre de 100 ans. On peut dire que s'il y a une animosité aujourd'hui un peu folklorique, hein, quand même, disons-le, entre la France et l'Angleterre, entre l'Angleterre et la France, elle est née pendant cette guerre de 100 ans, Stephen Clarke.
Oui, 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 tout à fait, oui. Et dans le livre, je dis clairement, surtout pour les Anglais, qu'en fait, ce n'était pas une guerre. D'abord, ça n'a pas duré 100 ans, c'est une faute mathématique grave, c'était plutôt 120.
C'est symbolique, on dit,
et
la guerre
de 100 ans. Et après, c'était même pas une guerre, c'était des riches chevaliers anglais, dont le roi, et qui montaient des missions pour venir piller la France. Ils ont vu, comme Guillaume le Conquérant...
C'était des raids, en fait.
Oui, c'était des raids. C'était du vrai pillage où on massacrait, on prenait des otages qu'on revendait. Et d'ailleurs, le roi prenait les otages les plus monnayables et les revendait à la France. Et justement, des batailles... on parle d'Azincourt, par exemple, et le massacre des prisonniers pendant cette bataille. Même certains Anglais étaient furieux que le roi ordonne ça, parce que pour eux... C'était des butins.
C'était autant
il fallait
de...
absolument pas tuer les chevaliers français parce qu'ils voulaient les ramener puis
c'était
les revendre.
C'était un manque à gagner, en fait.
Exactement. Et il faut surtout dire, et moi je le dis clairement, ce n'était pas une guerre, c'est une série de
alors,
raids.
Il y a quand même un conflit diplomatique et dynastique réel. Il ne faut pas oublier qu'Édouard III est le fils d'Isabelle de France, donc il est le petit-fils par sa mère de Philippe IV, le Bel. Et il veut, évidemment, faire valoir ses droits. Et à partir d'Édouard III, tous les souverains britanniques, et Dieu sait qu'il y en a eu de dynasties différentes et même d'appartenances religieuses différentes, tous les souverains britanniques, jusqu'à la paix d'Amiens sous Napoléon, vont se faire titrer roi d'Angleterre et de France. Aux yeux d'une certaine aristocratie britannique, tout l'ouest de la France, ça fait partie, c'est le beau jardin, et ça fait partie de l'Angleterre quand même.
Oui, oui, c'est ça, gagner des colonies gagnées pendant ces pillages. Mais d'abord, les rois anglais, comme tous les aristocrates de tous les pays, ils n'avaient aucune fidélité envers les autres membres de leur famille. Ils voulaient bien les massacrer aussi. Mais aussi, ce qui me fascine, moi, c'était dès la création organique de la langue anglaise, dès le moment où les cultures et les langues françaises et saxonnes se sont liées en Angleterre et on a créé cette nouvelle langue, dès ce moment-là, on a recommencé à envahir la France. C'est comme si la première mission de notre peuple, de notre culture, était d'envahir la France. Et c'est assez amusant que cette guerre culturelle et linguistique dure depuis toujours.
Ça, c'est assez étonnant. Alors, il y a eu plus tard quelques tentatives d'invasion de l'Angleterre. Louis XV y a pensé vraiment très sérieusement. Napoléon y a songé aussi. Je ne sais pas jusqu'à quel point c'était...
Oui,
enfin, il a quand même massé les armées. Hein,
oui, il a créé une armée de l'Angleterre qu'il a massée à Boulogne. Et il a même, malheureusement pour lui, créé des médailles de campagne
commémoratif
avant
de la conquête.
La campagne.
Oui. Ça, faut jamais faire ça.
Un peu dangereux. Ouais.
Ça s'appelle tuer la peau de l'ours. Ça, ouais. C'est toujours dangereux. Alors, le vrai sujet qui fâche, pardonnez-moi de vous le dire quand même, Stephen Clarke, au risque de vous paraître indélicat, c'est Jeanne d'Arc. Vous nous avez brûlé notre sainte nationale.
C'est vrai. D'ailleurs, un Français m'a dit que c'est une horrible blague. Elle est française.
Et je dois le souligner.
Oui, c'est que c'est la seule chose qu'on a de toute notre histoire qu'on a bien cuite. Oui. Mais c'est une horrible blague, je l'avoue. Mais c'est un Français qui me l'a dit parce qu'il était tellement furieux. Mais je dois dire que c'est vrai que les soldats anglais ont brûlé Jeanne d'Arc. Mais ce qu'on oublie très souvent, c'est que c'était des prêtres parisiens Les Parisiens
c'est
le détestaient.
C'est la faculté de théologie de Paris.
Oui, qui voulait absolument ce procès. Et, c'est la, et moi, dans le livre, je décris le procès et j'admire Jeanne d'Arc, cette jeune paysanne de 19 ans, qui se défend contre ces clergés très malins avec leurs questions religieuses super détaillées où une fausse réponse peut la faire condamner. Elle s'est bien défendue. Et malheureusement, à la fin, c'est nous qui avons été les bourreaux. Mais...
Et puis après tout, il y avait une rançon que Jean de Luxembourg avait proposée et personne ne l'a rachetée, la Jeanne d'Arc.
Oui,
on l'a gentiment laissée.
C'était pas entièrement de notre faute.
Et oui, on l'a gentiment laissée aux Anglais. Alors, à partir du moment où votre marine devient très puissante et où les mers du globe se mettent à appartenir à la Grande-Bretagne, on peut imaginer que l'autre grande puissance de l'Europe, c'est-à-dire la France, commence à froncer les sourcils. Ça va être une véritable rivalité, un véritable affrontement, Jean Bart au secours, au XVIIe et surtout au XVIIIe siècle. C'est vraiment là le choc de deux empires, qui va culminer au XIXe siècle. On peut parler cette fois non plus d'anglophobie ou de francophobie, on peut parler tout simplement de rivalité, on y vient dans un instant.
Franck Ferrand sur Europe 1, au cœur de l'histoire.
Qui sait quand est-ce qu'on va passer ce Chanel? Qui sait quand est-ce qu'on va le percer ce tunnel? N'oublions jamais que la France et l'Angleterre, entre elles, il n'y a qu'un tout petit bras de mer. En sautant dans un taxi, on lui dira Piccadilly et le chauffeur nous répondra dans un quart d'heure, j'y suis. Qui sait quand est-ce qu'on va passer sous le Chanel? Qui sait quand
le tunnel sous le Chanel, interprété par Raoul de Godvarsveld, la relation France-Angleterre fait réagir nos auditeurs.
Ah oui, vraiment. Hein, alors je sélectionne quelques réactions. Rémi nous dit « Les Français aiment leur défaite, les Anglais idolâtrent leur victoire, on court après tout ce dont on a le plus besoin. » C'est pas très gentil hein, contre les Ainsi, vous oubliez, me dit-il en bon français, les batailles de Barfleur et de Béziers, ignorer les vrais des Français, dont l'une que vous retrouverez, victoire de Tourville à 19 contre 76, fut qualifiée par les historiens de la couronne britannique comme la plus belle preuve d'esprit marin de l'histoire. Alors certains de nos auditeurs, moi ça me stupéfie, mais reconnaissent leur anglophobie hein, et ils l'assument, ils la revendiquent. Par exemple, un de nos auditeurs, Alain, me conseille la lecture d'un livre que je connais bien par ailleurs, un livre d'Olivier Blanc qui s'appelle Les hommes de Londres. C'est un livre qui détaille les méthodes de l'Angleterre pour attiser, pour installer la terreur en 1794. C'est vrai que les Anglais ont joué un rôle dans la Révolution. Vous le dites, vous, d'ailleurs, Stephen Clarke,
oui.
Évidemment. Et puis, Samuel nous dit « Je suis anglophobe à cause de Merzelkébir ». Alors ça, évidemment, Merzelkébir, c'est peut-être l'épine encore la plus douloureuse dans notre talon. On va y venir tout à l'heure, bien entendu. Avant ça, j'aimerais qu'on parle des colonies et notamment de ce qui se passe en Amérique, bien entendu. On vous a rendu l'appareil après avec Louis XVI, hein, puisqu'on a aidé les insurgents des colonies anglaises à acquérir leur indépendance. Mais avant ça, il y a eu cette guerre dans le Canada, bien entendu. Et vous écrivez, Stephen Clarke, vous nous parlez de ce traité de Paris qu'on n'aime pas rappeler en France, bien sûr. En 1763, écrivez-vous, Français et Britanniques signèrent le traité de Paris par lequel le Canada était cédé à la Grande-Bretagne, à l'exception de deux minuscules îles au large de la côte atlantique, Saint-Pierre et Miquelon. L'une des conséquences de la paix fut de permettre à la France de récupérer ses prisonniers de guerre, les Acadiens. Or, nous dites-vous, ces Acadiens, on les a mal reçus et Dieu sait que c'est vrai, on s'en est mal occupé. On n'a rien fait, dites-vous, pour les aider à se sentir chez eux après leur rapatriement en France. Après tout, ils prenaient des terres, de la nourriture et du travail à des paysans français ayant du mal à subsister. De plus, ils ne cessaient d'essayer de draguer les blondes locales et probablement de poser des pièges à castors dont étaient victimes les chiens et les chats des autochtones. Ça, c'est bien d'un auteur britannique, cette remarque-là. Et pour finir, il parlait avec un drôle d'accent. Ouais, oui, évidemment, on l'aura jamais...
J'ai jamais compris pourquoi les Français se moquent de tous ceux qui parlent français, mais avec un autre accent. Mais c'est bizarre si vous voulez que la langue française soit internationale. Mais il faut
est-ce qu'on peut dire les Français ou les Parisiens, en l'occurrence
Mais il faut dire que dans Mille ans de mésentente cordiale, je parle de la grosse mésentente au Canada, mais surtout, je critique très fortement les Anglais au sujet des Acadiens. Je dis que c'était horrible. Ils ont juste pris ces colons, qui étaient pour la plupart juste des fermiers et des chasseurs, qui étaient là depuis très longtemps, ils les ont jetés dehors. Mais c'était un crime de guerre, et je le décris très en détail.
C'est vrai.
C'était de notre faute si vous aviez les Acadiens sur les bras.
Disons que ce que vous faites souvent, c'est nous tendre un miroir. Alors, vous assumez un certain nombre de responsabilités britanniques, mais vous nous dites, si les Français assumaient leurs propres fautes, ça irait peut-être mieux.
Ben oui, justement, j'essaie de... En fait, dans le livre, on peut dire que je suis francophobe, mais c'est absolument faux. Ce livre est juste honnête. Je dis, oui, nous, on a bien fait la guerre de 100 ans, qui n'était pas une guerre. On a bien jeté les Acadiens hors de leur terre. Mais en l'occurrence, il faut peut-être que les Français acceptent leur tort, par exemple, au Canada.
Et du reste, vous racontez que les Acadiens en question, une partie d'entre eux sont repartis ensuite en Amérique et se sont installés en Louisiane. Et patatras, Bonaparte ne trouve rien de mieux que de revendre la Louisiane encore, de vendre la Louisiane, de la céder de nouveau.
Ah oui, mais il faut aussi dire que juste avant cette vente, que la Louisiane, ce que les Français ne savent sans doute pas tous, c'est que la Louisiane à l'époque, c'était pas juste les marécages autour de Nouvelle-Orléans, c'était presque tout l'ouest du continent américain. Et la France possédait encore...
Oui, c'était gigantesque, on en a parlé il y a quelques temps.
Et la France l'a vendue pour presque rien, parce que Napoléon avait besoin de financer sa guerre contre les Anglais. Oui. D'ailleurs, il s'est fait arnaquer, le pauvre, par des banques britanniques, Barings Bank.
Barings Bank vous nous dites, finalement, Napoléon, c'est un opportuniste qui a fait toute sa carrière contre l'Angleterre. Heureusement qu'on était là pour lui donner du grain à moudre, en quelque sorte. Hein.
Ah, il s'est bien illustré. Non, mais je dis aussi dans le livre que Napoléon, c'était un vrai rival que les Anglais adoraient et détestaient, mais ils respectaient beaucoup. D'ailleurs, la reine Victoria, quand elle est venue à Paris, c'est 50 ans après, elle a emmené son fils pour se mettre à genoux devant le grand Napoléon. Donc,
et devant un tombeau qui était peut-être vide. Mais enfin, ça, c'est un autre sujet. Alors, il y a un certain nombre d'inventions que vous revendiquez. Alors, la guillotine, on vous la laisse volontiers. Hein. Vous dites qu'il y avait des guillotines dès le milieu du Moyen-Âge en Angleterre.
Oui, c'est ça. Et c'était une machine qui existait déjà. Et d'ailleurs, le pauvre docteur
En Écosse plutôt d'ailleurs qu'en Angleterre.
Le nord de l'Angleterre.
Oui, c'est ça, le nord
de l'Angleterre. Mais le pauvre docteur Guillotin ne voulait absolument pas donner son nom à cette machine.
Ah non, le pauvre, il s'en serait bien passé, on le comprend. Ouais. Et en revanche, alors là où ça devient un peu gênant, c'est quand vous nous dites que le champagne, c'est grâce aux Anglais. Excusez-moi.
Bah, je dis juste que c'est un bel exemple de collaboration anglo-française, parce que c'est que sans nous, le champagne serait moins pétillant. Parce que c'est un scientifique anglais qui a aidé, montré aux Français comment contrôler la fermentation en bouteille, comment empêcher que les bouteilles explosent. Et sans lui, Dom Pérignon était en train de purifier le vin et de le rendre un peu moins pétillant. Mais à Londres, on voulait bien faire la fête avec un vin très pétillant. Et donc, on a contrôlé la fermentation, inventé des bouteilles plus fortes. Et c'est à ce moment-là que le champagne, comme on le connaît actuellement, est devenu un populaire. Donc c'est grâce à nous quand même.
Et que pourrait-on dire, au-delà du champagne, d'un certain nombre de nos vignobles français? Je pense bien sûr au Bordelais et au Médoc, dont toute la gloire et toute la fortune ont été liées au goût que les Anglais ont très tôt développé pour les grands vins français.
Ah bah, on aime bien vos produits agricoles, c'est sûr.
C'est ça, oui. Tant que la France sert de jardin, finalement, ça ne dérange personne, je vous l'avais dit. D'épicerie, voilà, c'est ça. Espérons que ce soit quand même une épicerie fine. On va néanmoins, je vais essayer dans quelques instant, dans le cadre du récit, de vous parler d'entente cordiale, mais ça va pas être si facile.
Passion.
Au cœur de l'histoire sur Europe 1, le récit de Franck Ferrand.
Un récit de Franck qui revient donc sur Europe 1, sur l'entente cordiale entre la France et l'Angleterre.
Il faut sauter sur toute l'époque de Voltaire. Vous n'oubliez pas à quel point Voltaire a été anglophile, évidemment. On a dit quelques mots de la rivalité majeure, la confrontation à l'époque de l'Empire, bien entendu, le Napoléon. C'est au début du dernier siècle, c'est au tout début, c'est dans les années 1900, qu'on a commencé à se rapprocher véritablement. Et en vérité, côté anglais, le seul vrai partisan de ce rapprochement, c'était le roi lui-même. Édouard VII est francophile, il ne s'en cache pas. À ce moment-là, il règne depuis très peu de temps, puisqu'il est monté sur le trône en 1901 seulement, à l'âge de 60 ans. Il avait été largement tenu à l'écart du gouvernement par sa mère, de la couronne par sa mère, Victoria. Alors, vous savez qu'il avait passé beaucoup de temps à Paris, Édouard VII, à l'époque où il était prince de Galles, on le voyait beaucoup chez Maxime, on le voyait beaucoup dans un certain nombre d'endroits plus ou moins fréquentables. C'est la Goulue qui lui disait « Alors, Galles, on pèle champ !» Et ça le faisait rire, malgré sa très grande conscience de son rang. C'était l'arbitre des élégances, le prince de Galles, on l'a dit, on l'a raconté il y a quelque temps, l'inventeur de la poignée de main notamment, etc. Il est présenté au président Loubet, il arrive lui-même à l'Élysée. Ça n'était pas du tout prévu. En 1899, le président Loubet l'avait reçu poliment, bien sûr, mais avec un peu de froideur. Il était à l'époque encore prince de Galles. Or, s'il aime Paris et la France, Édouard VII se méfie comme de la peste de son neveu, le Kaiser, Guillaume II. En revanche, il apprécie ses parents russes, le tsar Nicolas et la tsarine Alexandra, qui sont alliés de la France, et l'idée de mettre un terme à la rivalité russo-anglaise lui plaît autant que de mettre un terme à la rivalité franco-anglaise. Le 8 février 1902, lors d'un dîner à Buckingham, le roi fait placer à côté de lui le ministre français Paul Cambon, là, juste à côté de lui, et il va essayer d'emblée de poser les bases de ce qui va devenir une véritable négociation. Alors on pense bien entendu à la définition des zones d'influence britanniques et françaises en Afrique, hein, il ne faut pas trop se monter sur les pieds. En gros, l'Angleterre sera tranquille en Égypte, les Français tranquilles au Maroc. On parle du règlement d'un certain nombre de points épineux sur le globe, et pour autant, on n'a pas encore d'alliance effective et surtout pas d'accord militaire. Il ne faut pas oublier que le souvenir de la crise franco-britannique de Fashoda est encore très frais à l'époque. Hein, ça fait 4 ans seulement. Et le grand allié russe de la France est réticent, bien entendu, à une alliance entre la France et l'Angleterre. Et puis soudain, en mars 1903, le roi Édouard va prendre les choses en main et va bousculer un petit peu tous ces diplomates frileux. Le 25 mars, Paul Cambon écrit à Delcassé « Le roi tient beaucoup à rencontrer monsieur le président de la République. Il croyait pouvoir le joindre dans la Méditerranée, mais ayant appris que les dates et l'organisation du voyage de monsieur Loubet en Algérie ne permettaient pas une rencontre, le roi a changé ses plans et s'est décidé à passer par Paris. Comme vous le savez déjà, cette visite aura lieu entre le 1er et le 3 avril. Ça, c'est quand même une grande nouvelle. Évidemment, pour autant, toutes les chancelleries sont très méfiantes et personne ne pense encore à une véritable alliance. Finalement, ce qui au départ devait être un déjeuner intime va se transformer en une véritable visite d'État, grand protocole, visite historique. Le roi Édouard est attendu à Paris pour ce 1er mai 1903. Les dirigeants français marchent sur des œufs. Les citoyens sifflent, se moquent. Édouard le Magnifique va avoir 3 jours pour faire changer les Parisiens d'avis. Heure de l'après-midi, ce vendredi 1er mai 1903, le président Loubet est donc rentré d'Algérie la veille seulement et il arrive en grand équipage à la gare du Bois de Boulogne, la gare ferroviaire souterraine de la Porte Dauphine. Il faut l'imaginer, hein, ce président Loubet, petit, le teint vif avec sa barbe blanche impeccable, il est habillé un peu tristement, frac noir, chapeau haute forme. Le roi d'Angleterre, lui, est en grande tenue chamarrée. Ça, c'est l'avantage des rois, c'est qu'ils font toujours mieux, j'allais dire, sur les photos. À l'époque, les photos, de toute façon, sont en noir et blanc et pas si nombreuses. Entre les deux hommes, le contraste est assez saisissant. Et on peut dire que le début de cette visite est très tendu. Le souverain se trompe de côté en montant dans la voiture du président. Donc il y a un peu un pataquès. Autour, la foule est en train de siffler quand même. On crie « Vive les bourgs, vive Marchand, Fashoda !» Donc ça, c'est pas tellement...
C'est pas...
Et le médecin du roi dit à Édouard VII « Les Français ne nous aiment pas. » Et Édouard VII répond « Mais pourquoi nous aimerait-il ? » Alors bon, un peu de gêne. Et puis on arrive rue du Faubourg Saint-Honoré jusqu'à l'ambassade d'Angleterre où va résider le roi. Et à ce moment-là, le roi est pris d'une quinte de toux absolument incroyable. Mais on se demande s'il ne va pas s'évanouir dans la voiture. Et le président Loubet est à côté, il ne sait pas trop quoi faire. Tout ça est compliqué. Et puis le temps se découvre néanmoins pendant le voyage. Et le roi dit chez nous, nous appelons ça le temps du roi. C'est un début de visite, disons-le, bien gêné, bien compliqué. Il y a notamment cette soirée à la Comédie-Française où on avait prévu de représenter le misanthrope. « Ah non, a dit Édouard VII, faudrait tout de même pas me prendre pour le chat de Perse. J'ai vu le misanthrope 10 fois, qu'on me donne au moins la pièce nouvelle. » Et donc on va jouer L'autre danger de Maurice Donnet. Représentation glaciale, tout le corps parlementaire est là, hein, tous les parlementaires sont présents. Ils refusent d'applaudir le roi. Donc vous voyez, on entend quelques sifflets. Il y en a qui parlent encore de Fashoda, tout ça est un peu gênant. Et puis, le charme d'Édouard VII va faire miracle, va faire merveille. C'est-à-dire qu'on le voit multiplier les accolades, se montrer toujours souriant quoi qu'il arrive. Il passe des troupes en revue à Longchamp, tout ça se passe bien. Et puis le soir, il y a cette grande soirée à l'Opéra. Et cette fois, ce ne sont pas les parlementaires qui sont dans la salle. Cette fois, c'est la haute société parisienne qui connaît très bien Édouard VII pour l'avoir connu du temps où il était était prince de Galles. Et alors là, d'un seul coup, au milieu des bijoux, des fourrures, de tous les uniformes chamarrés et des décorations qui sont de sortie, eh bien, d'un seul coup, il se passe une sorte de retournement. La foule acclame le roi et à l'extérieur, la presse s'agite. On parle du miracle Édouard VII, etc. Et le lendemain, dimanche 3 mai, on va voir la foule profiter de son jour de repos pour rattraper le temps perdu et se mettre à fêter les souverains anglais. Les manchettes des journaux font assaut d'enthousiasme. On a pendu des calicots en travers des rues, dans certaines rues fermées pour les circonstances, qu'on avait d'ailleurs illuminé à l'électricité pour l'occasion. On se met à danser le cakewalk, qui est l'ancêtre du foxtrot, et on se met à crier « Vive Édouard, vive l'Angleterre !» Ça y est, c'est gagné sur le trajet qui va mener Édouard de la gare d'Orsay à Cherbourg, et puis à Cherbourg, il va retrouver son yacht, hein, le Victoria and Albert. Le roi d'Angleterre peut se réjouir. En moins de 3 jours, il a retourné l'opinion française. Il l'a galvanisée en faveur de ce qu'on appelle désormais l'entente cordiale. On peut dire que la concorde et la paix doivent beaucoup à cet amoureux de Paris.
L'histoire sur Europe 1, c'est avec Franck Ferrand.
When I have rencontred you, you was a jeune fille au père. And I put a spell on you, and you roll a bell to me. Together we go partout. On my mob, it was super. It was Friday on my mind. It was a story d'amour. It is not because you
Renaud sur Europe 1, it is not because you are.
Et c'est ce qu'on appelle le franglais. Après
Exactement.
Tout, c'est le plus beau symbole de cette amouraine entre la France et l'Angleterre. Alors, Karl, à ce propos, nous dit que le journaliste, il parle de moi, en parlant de journaliste,
oui.
Bon, j'ai jamais été journaliste, mais je suis ravi.
Historien, n'est-ce pas ?
Parle d'insurgent, dit-il. Alors, je viens de vérifier, le mot n'existe pas dans le dictionnaire. Non, c'est un mot qu'on emploie uniquement pour parler des insurgés des 13 colonies d'Amérique de l'Est, donc... C'est ce qu'on appelle un apax en histoire, c'est-à-dire un terme qu'on emploie uniquement dans ce contexte-là, cher Karl. Alors, vous voyez quand même hein, que dès qu'on parle d'Angleterre en France, ça bouge, hein, les réactions sont très nombreuses. Il y a sans doute un vieux fond d'anglophobie, bien entendu, et pour en parler, nous avons, au téléphone, c'est pas tout à fait le cas, c'est en ligne depuis Bruxelles, un enseignant-chercheur à l'Institut d'études politiques de Paris, et professeur au lycée français de Bruxelles, c'est Fabrice Sérode. Bonjour Fabrice Sérode.
Bonjour messieurs.
Merci beaucoup de bien vouloir nous parler de ce sentiment que l'on voit poindre encore ici et là, ce sentiment d'anglophobie. Alors on a bien compris que pendant des siècles, il y a une rivalité franco-britannique. De quand date l'anglophobie en tant que telle ?
Eh bien, ce que je voulais montrer dans mon ouvrage, entre autres, c'est qu'il y a une mutation à partir du 19e siècle. Vous l'aviez marqué tout à l'heure, un tournant. Jusque-là, on était en conflit direct, mais en gros, depuis 200 ans, il n'y a plus de conflit direct. Et donc, cette haine s'est muée en passion, une passion très intellectuelle et nourrie d'histoire.
Et oui, et on peut dire que cette passion était alimentée politiquement aussi. Elle avait sans doute un rôle à jouer dans la rivalité entre les deux empires coloniaux français et britannique au XIXe siècle.
Voilà, ce n'est plus une haine simplement stéréotypée, voire raciste. C'est beaucoup plus une question de géopolitique,
voilà.
Un peu comme aujourd'hui vis-à-vis des États-Unis. Eh bien, à l'époque, ça a toujours été le cas. D'abord, le Royaume-Uni s'est posé comme défenseur du balance of power sous Napoléon. Hein, c'est ce qu'on voit encore dans le dernier film, Les Lignes de Wellington. Donc, le Royaume-Uni, garant de l'équilibre européen. Mais à mesure qu'il a conquis son empire colonial à la fin du XIXe siècle, et qu'il a acquis cette position unique d'économie monde britannique, les Français en ont tiré, disons, une certaine jalousie, amertume et une volonté à leur tour de faire une quelque sorte une balance of power à la française.
Et voilà. Alors, est-ce que ce sentiment est une spécificité française ou est-ce qu'on retrouve de l'anglophobie ailleurs aussi ? Est-ce qu'il y a, à l'Allemagne, par exemple ?
Voilà. Je l'ai un peu comparé donc à l'anglophobie allemande qui est assez forte, voire très forte pendant la guerre des Bourgs. Et plus sanglante, plus violente. Et surtout, l'habileté des diplomates dont on parlait tout à l'heure, et côté français cette fois, donc non plus Édouard VII, mais plutôt des gens comme Théophile Delcassé,
voilà, oui.
Ou Paul Cambon, l'ambassadeur donc à Londres à l'époque, a été de un peu mener une contre-politique, et pas seulement des visites comme celle d'Édouard VII, mais d'autres visites officielles, pour balancer cette anglophobie, alors que l'Allemagne, juste avant la Première Guerre mondiale, et c'est peut-être son erreur fatale, a laissé, en quelque sorte, s'exprimer son opinion publique. Elle était dans une politique qui était directe, froide, là où les dirigeants français ont tenté de sauver les apparences, et ça a marché.
Et ça, ça répond à la question que posaient certains de nos auditeurs et auditrices au tout début de l'émission, à savoir s'il s'agissait de haine et de préjugés purement populaires ou s'ils étaient alimentés par des dirigeants. Vous nous dites très clairement qu'en France, non seulement ils ne sont pas alimentés par les dirigeants, mais on essaie de calmer ces passions-là.
Ceux qui sont au pouvoir, oui. Voilà. Alors bien sûr, il y a quelques frustrés de la politique.
Oui,
on cite souvent Émile Flourens, par exemple, qui, après coup, théorise la vassalité et la domination, disons, britannique sur la France. Mais c'est une affaire plutôt de frustrés de la politique, après coup. Ceux qui sont au pouvoir, sans être anglophiles, Monson, à l'époque, ne décrit pas l'ambassadeur donc britannique, ne décrit pas Théophile Delcassé comme spécialement anglophile, du moins ne sont pas anglophobes, et c'est déjà beaucoup, oui, notamment par rapport à l'Allemagne.
Alors il y a un autre sentiment tout à fait symétrique, c'est celui de la francophobie d'un certain nombre de Britanniques. Et on a l'impression que c'est une francophobie alimentée plutôt par la presse cette fois, en fait.
Surtout qu'elle se maintient. C'est la grande différence avec la France. À l'époque, nous avions une presse vraiment satirique très importante. Je la mets en couverture de mon ouvrage, entre autres, mais il y a beaucoup d'éléments comme cela, notamment l'assiette au beurre, assez virulente. Aujourd'hui, on a guère vraiment l'équivalent. L'anglophobie, ce n'est plus un thème véritablement descriptif. Alors que de l'autre côté de la Manche, s'est maintenue une presse populaire, voire populiste dans certains cas, qui n'hésite pas à chaque fois à jouer de cette francophobie. On en a eu des exemples récents, et même une presse dite sérieuse, comme finalement The Economist encore récemment.
Merci beaucoup Fabrice Sérode de Sciences Po. Vous nous parliez depuis Bruxelles, et j'en profite pour remercier notre correspondante à Bruxelles, Isabelle Horry, qui nous a prêté son bureau et sa ligne. Merci beaucoup.
Big moustache.
I don't know. And if you don't know, I don't know, no?
I don't understand.
You come with me to pick up Peter.
No, you come with me to pick up Macintosh.
No, you.
I beg your pardon.
And if you don't come, I... Ah, merde alors, comment on dit
ça? Comment ça, merde alors? But alors, you are French.
Eh? You are not English?
No. Gentlemen. Excusez-moi, je vous avais écouté. Vous avez parlé de Macintosh et Peter, n'est-ce pas?
Non, je ne vois pas ce que vous voulez dire. Moi, je cherche un ami qui s'est perdu dans le brouillard.
Il nous a fog.
Vous ne l'avez pas rencontré par hasard? Il a des grandes moustaches.
Oui, big moustache. Oui, je suis big moustache. J'étais big moustache. Hein? I had to cut it off. Hein? Trop dangereuse. Too English. Trop anglais. Suivez-moi.
Il a un bon accent. On peut le suivre, je crois.
Les merveilleux Bourville et Louis de Funès dans la Grande Vadrouille, bien entendu. Alors, cette période de la Seconde Guerre mondiale réconcilie tout le monde, évidemment. Tout le monde, mais enfin, il y a quand même toujours ce petit conflit Churchill-De Gaulle.
Hein, un grand conflit.
Grand conflit.
Ah, oui, grâce à Marcel Kébir, on en parlait tout à l'heure, que les Anglais ont coulé la flotte française. Mais il faut dire, et je le dis dans le livre, pour Churchill, c'est une tragédie. Ça l'a fait littéralement pleurer, parce qu'il ne voulait pas couler cette flotte. C'est juste parce que l'amiral français a refusé de garantir que ces navires ne retourneraient pas en France pour être repris par Vichy, qui les a fait couler. C'était une décision sur le front mondial de la guerre mondiale. Ce n'était pas juste franco-anglais, c'était pour que la guerre mondiale soit gagnable qu'il l'a fait. Churchill était très désolé.
Vous savez qu'en défendant Merzel Kébir à ce micro, vous allez nous valoir un certain nombre de nouveaux messages, mais on n'aura pas
désolé,
le temps de les lire.
C'est juste
on fera un petit
une
dossier
réalité
pour
historique.
Non, mais je ne conteste pas. Jeanne nous dit merci de cette émission. Et alors là, ce sont des messages très sympathiques d'auditeurs qui nous disent moment délicieux, nous adorons les Anglais. Je suis anglophile, nous dit Patricia. J'adore aller à Londres, entendre l'anglais et les Anglais qui sont si accueillants. Ah, vous voyez quand même que...
Non, mais Patricia, c'est ma sœur. C'est ma tante.
Voilà, c'est peut-être aussi une explication. 1000 ans de mésentente cordiale, l'histoire anglo-française revue par un roast beef de Stephen Clark. Alors, cet amour d'un certain nombre de nos auditeurs et surtout auditrices, en l'occurrence pour l'Angleterre, est-ce qu'il a son pendant? J'imagine qu'il y a des Anglais qui nous aiment bien quand même.
Bien sûr, bien sûr. Il faut dire que chaque fois qu'il y a un titre anti-français à la presse anglaise, et surtout c'est autour de l'Europe, c'est pas autour de la France, La page 1 sera anti-française. Les pages genre 20 à 25, ce sera passez vos vacances en France, achetez une maison en France, buvez du vin français, mangez du fromage français. Je veux dire, c'est beaucoup plus d'amour que de haine. Il n'y a pas de haine, d'ailleurs.
En fait, nous regardons de façon compulsive vos séries télévisées et vous aimez bien notre mode, un peu notre gastronomie qui est en train de gagner quand même la plupart des restaurants britanniques.
Ah, d'ailleurs, grâce au tunnel, moi, c'est fabuleux le tunnel. Moi, je dis, c'est par là qu'on exprime notre amour caché. C'est comme un couloir entre les chambres au palais de Versailles où Louis XIV pouvait aller la nuit en secret. On y va dans tous les deux sens pour exprimer notre amour de l'un pour l'autre.
Il y a encore des gens qui se promènent, enfin ceux qui vont en Angleterre par l'avion ou par le bateau, hein, il faut savoir.
Bien sûr, mais par tous les moyens. Parce
quand
qu'on
a une
adore,
voiture, c'est plus pratique.
En fait, on est tellement différents qu'on adore y aller. C'est tellement exotique. En deux heures, chacun peut être dans un pays complètement exotique avec une culture qui est le contraire de la sienne.
Le contraire, et puis en même temps, c'est si proche, hein, finalement. C'est vrai, il y a cette mer entre nous, il y a deux cultures très différentes, mais les deux pays sont proches par bien des aspects, disons-le.
Géographiquement, oui, mais culturellement, pas du tout. Je pense
culturellement,
vraiment,
c'est très différent. Merci beaucoup, Stephen Clark, d'être venu nous parler de ces 1000 ans de mésentente cordiale. Votre ouvrage est publié chez Nil.